Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite un très bon sabbat. Nous étudions la Bible tous les jours. Nous avons dans la Bible des réponses à la vie, à notre façon de vivre. Mais comment est-ce que nous pouvons savoir que nous avons toute la parole de Dieu? La Bible dit, je ne m'y rapporte pas, dans 1 Pierre chapitre 1 et le verset 25, 1 Pierre chapitre 1 et le verset 25, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Et si nous ajoutons Matthieu chapitre 4 et le verset 4, Matthieu chapitre 4 et le verset 4, je n'y m'y rapporte pas non plus, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous pouvons nous poser la question, quelles sont les paroles qui sortent de la bouche de Dieu? Où trouver les paroles qui sortent de la bouche de Dieu? Ça a toute son importance. Nous sommes familiers avec 2 Timothée chapitre 3 et le verset 16 où c'est marqué « Toute écriture est inspirée de Dieu ». Toute écriture est inspirée de Dieu dans 2 Timothée chapitre 3 et le verset 16. Et littéralement, ça veut dire « insoufflé de Dieu ». C'est le mot grec « théopneustos », donc deux mots grecs. Théos et pneustos, théos qui veut dire Dieu, et pneustos qui veut dire souffler ou respirer. Donc, littéralement, l'écriture, ce que nous voyons dans la Bible, est insufflée de Dieu. C'est sa parole inspirée. Et bien que Dieu l'ait inspirée à des êtres humains, son message reflète entièrement la pensée de Dieu, la pensée divine. C'est inspiré de Dieu. Et dans ce verset, au début de ce verset, nous trouvons aussi l'expression « toute écriture ». Toute écriture est inspirée de Dieu. Et nous trouvons même dans Romains chapitre 1 l'expression « les saintes écritures ». Et dans Timothée, de Timothée, les saintes lettres. Parce que ça vient de Dieu. C'est saint. C'est donné par Dieu. Et donc nous voulons avoir accès à ce que Dieu nous a donné. Et seulement à ce que Dieu nous a donné. Ni plus, ni moins. Et avoir accès exactement à ce que Dieu nous a donné. Pour pouvoir justement vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous connaissons aussi le verset dans Jean chapitre 17, verset 17, « Ta parole est la vérité ». Il est important pour nous d'avoir la vérité et rien que la vérité. Et ça nous amène à la question suivante. La Bible est-elle complète? Est-ce que la Bible contient toute la vérité de Dieu? C'est donc le sujet du sermon. La Bible est-elle complète? Peut-être vous avez entendu parler des écrits apocryphes. Ce sont des livres qui ont été ajoutés à l'Ancien Testament dans certaines versions de la Bible. On parle de 7 livres supplémentaires et aussi des portions d'autres livres. Les 7 livres supplémentaires sont Tobie, Judith, la sagesse de Salomon, l'Ecclésiastique, le livre de Baruch, 1 Maccabée et 2 Maccabée. Et en plus de ces 7 livres, on trouve d'autres versets supplémentaires. Par exemple, à la fin du livre d'Esther et au milieu du 3e chapitre du livre de Daniel, et certaines versions ont même un 13e chapitre de Daniel et même un 14e chapitre. Où donc est la vérité? La Bible est-elle incomplète sans ses suppléments, sans ses livres apocryphes? D'après le site La Culture Générale, le mot apocryphe vient à l'origine du grec, qui veut dire caché ou secret. Caché ou secret. Mais il ne faut pas que nous soyons étonnés parce que déjà à l'époque de l'apôtre Paul, il y avait des écrits fallacieux. Paul a fondé la congrégation de Thessalonique vers 50-51 de notre ère, lors de son second voyage pastoral accompagné de Silas et de Timothée. Il a écrit donc cette première épître aux Thessaloniciens peu après avoir établi cette congrégation. Et après The Expositor's Bible Commentary, mais je vous le dis ceci en français bien sûr, Paul, et je cite, rédigea la seconde épître quelques mois après avoir écrit à Thessaloniciens. Regardons, si vous voulez bien, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, et le verset 1. Gardons présent à l'esprit que ceci était écrit relativement peu de temps après l'établissement de la congrégation de Thessalonique. Ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Il y avait donc, à l'époque de l'apôtre Paul, un problème. Qu'on dirait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Le second, la traduction second 21, dit ceci, « Ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troublé par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. » Ce n'est pas étonnant qu'à travers l'histoire, il y a eu de fausses lettres, de faux livres. Nous trouvons aussi dans l'Ancien Testament qu'il y a eu un problème. À l'époque de Jérémie, et puis le verset 32 qui va de pair avec ceci, voici dit l'Éternel, verset 32, voici dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple, par leur mensonge et par leur témérité, je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Le jugement de l'Éternel sur ceux qui font de fausses prophéties, j'ai voulu vous lire ceci dans la version second 21. Second 21, j'en veux à ceux qui prophétisent à partir de rêves pleins de fausseté, déclare l'Éternel. Il les répète, et ils égarent mon peuple par leur mensonge et par leur vantardise. Moi, je ne les ai pas envoyés et je ne leur ai pas donné d'ordre. Ils ne sont vraiment d'aucune utilité à ce peuple, déclare l'Éternel. De faux songes et de fausses prophéties, tout ça au nom de l'Éternel. Au nom du Seigneur, mais ce n'était pas du Seigneur, ce n'était pas de Dieu. Et la question, donc, que nous pouvons toujours nous poser, à qui Dieu, puisqu'il y a des songes qui sont faux, il y a des prophéties qui sont fausses, à qui Dieu a-t-il donné l'autorité pour décider ce qui doit être préservé et ce qui ne doit pas être préservé, ce qui vient de lui et ce qui ne vient pas de lui. Il y a une deuxième question que nous pouvons nous poser aussi. Est-ce que ça dépend d'un seul homme, d'un seul individu, ou est-ce que ça dépend d'une Église? Nous avons dans Romains chapitre 3 la réponse à ces deux questions. Romains chapitre 3 et le verset 1. Romains chapitre 3 et le verset 1. Dans Romains, Paul s'adresse aux gentils et aussi aux juifs. Et ici, dans le chapitre 3, il donne une précision à propos des juifs. Quel est donc l'avantage des juifs? Quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand, verset 2, il est grand de toute manière et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Donc nous voyons qu'il ne s'agit pas d'un homme et que nous voyons aussi que les oracles de Dieu leur ont été confiés. C'est-à-dire les mots et les expressions de Dieu. Ce mot oracle, probablement cela ne nous est pas très familier, mais nous trouvons le mot oracle aussi dans Actes chapitre 7 et le verset 38. Oui, dans une précision supplémentaire, dans Actes chapitre 7 et le verset 38. Nous allons lire à partir du verset 37, si vous voulez bien, pour situer le contexte. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, « Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. C'est lui qui, donc Moïse, lors de l'assemblée au désert, parfois traduit par église, ecclésia en grec, c'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï et avec nos pères, reçut, donc Moïse, reçut des oracles vivants pour nous les donner. C'est intéressant que ces oracles ont été transmis pour nous les donner. Les versions Martin, Osterwald, Synodal, Chouraki et Semer emploie l'expression, à la place d'oracle vivante, « parole de vie ». J'aime beaucoup cette traduction pour « parole de vie ». Le second 21 parle des oracles de vie. Et c'est vrai que quand nous considérons ce que Dieu nous a donné sur le mont Sinaï et ailleurs, ce sont les paroles de vie. Le Christ a dit, dans Jean chapitre 6, je ne m'y rapporte pas, Jean chapitre 6 et le verset 63, deuxième partie du verset, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Si nous regardons le contexte, nous voyons à ce moment-là que plusieurs de ses disciples n'allaient plus avec lui. Et dans le verset 67, je cite, « Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Verset 68, « Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Pas uniquement la vie, mais la vie éternelle. Et quand nous suivons la voie de Dieu, quand nous suivons les oracles vivants, ça nous amène, en faisant tout ce que Dieu nous demande, ça nous amène à la vie éternelle. Nous trouvons l'expression « les oracles de Dieu » mentionnée ailleurs dans le Nouveau Testament, dans Hébreux chapitre 5, verset 12, et 1 Pierre chapitre 4, verset 11. Hébreux chapitre 5, verset 12, et 1 Pierre chapitre 4, et le verset 11. Donc, les oracles de Dieu ont été confiés aux Juifs. Ils étaient responsables. Ils ont hérité de l'autorité divine pour sauvegarder sa parole, l'Ancien Testament, en tout temps. Jésus lui-même a souligné qu'ils ont hérité de cette autorité, et nous trouvons le passage dans Matthieu chapitre 23, à partir du verset 1. Matthieu chapitre 23 et le verset 1. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. » Donc, ils avaient cette autorité. « Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. » Nous sommes familiers avec le fait que les scribes et les pharisiens, à l'époque du Christ, n'étaient pas justes. Mais ils étaient assis dans la chair de Moïse. Il y a aussi dans Luc chapitre 16 et le verset 17. Luc chapitre 16 et le verset 17. Le Christ a dit, pour montrer que la parole de Dieu allait être préservée, il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. Si un seul trait de lettre ne pouvait tomber, à plus forte raison, un livre ne pouvait manquer. Un livre que Dieu a inspiré. Les responsables étaient les scribes et les pharisiens, et le siège était à Jérusalem. Nous voyons dans Luc, chapitre 24, et le verset 44, les Écritures que Jésus a reconnues comme ayant l'approbation officielle. Luc, chapitre 24, et le verset 44, c'est après la résurrection de Christ, quand le Christ se montre aux 11 apôtres, verset 44, puis leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes, les trois divisions de l'Ancien Testament que les Juifs ont toujours préservées. Parce que la Bible hébraïque comporte trois divisions, la loi, les prophètes et les psaumes. Et ce que nous venons de voir, c'est que le Christ a reconnu ces divisions. La loi, qui est aussi appelée en hébreu le Torah, et en grec le Pentateuque, consiste des cinq premiers livres de la Bible. Les prophètes, c'est Josué, Juge, 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Rois, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et les 12 prophètes mineurs. Et les psaumes, c'est le livre des psaumes, Proverbes, Job, le Cantique des Cantiques, Ruth, Lamentation, Ecclésiaste, Esther, Daniel, Esdras, Néhémie, 1 et 2 Chroniques. Les Écritures hébraïques comprennent, dans la plupart de nos versions françaises, 39 livres qui, à l'origine, n'ont représenté que 22. L'alphabet hébreu comporte 22 lettres. Il y avait donc un rapport entre ce chiffre et le nombre d'écrits composant la Bible hébraïque. Et l'historien juif connu, Joseph, a écrit au 1er siècle, et je cite, « Il s'ensuit que nous ne possédons pas toute une myriade de livres n'ayant aucun rapport entre eux ou se contredisant mutuellement, nos livres, qui sont justement reconnus, se limitent à 22 et contiennent les registres de chaque époque. » citation de Contre Appian avec une traduction depuis l'anglais. Si vous regardez la traduction du rabbinat, vous verrez que l'ordre n'est pas le même que ce que nous avons dans nos Bibles françaises, mais l'ordre dans le rabbinat correspond à ce que je viens de vous donner avec les trois divisions de la Bible hébraïque. On pourrait se demander parfois pourquoi Daniel fait partie des psaumes dans ces trois catégories, dans ces trois divisions. La mission de Daniel était différente de celle des autres prophètes. Ces derniers ont essentiellement affaire avec Israël, alors que Daniel a affaire avec les royaumes païens, n'ayant affaire avec Israël que lorsque ce dernier entre en contact avec les païens. Daniel est un livre chargé d'espoir, et Daniel montre qu'après le royaume païen, le royaume de Dieu va être instauré sur terre. Daniel parle pas seulement du premier avènement de Christ, dans Daniel chapitre 9, mais il parle aussi de son second événement et de son retour sur terre en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. C'est ce que nous voyons dans Daniel chapitre 2 et Daniel chapitre 7. Nous savons qu'il y a beaucoup de passages dans l'Ancien Testament qui sont cités dans le Nouveau Testament. Et nous savons également que les écrits apocryphes ne sont jamais cités dans l'Écriture. Les écrits apocryphes ont été ajoutés frauduleusement 700 ans après les trois divisions dans l'Ancien Testament et 400 ans après la naissance de Jésus-Christ. Les écrits apocryphes n'ont pas d'autorité divine. Nous avons vu qui avait l'autorité divine pour les écrits de l'Ancien Testament. Et parfois, ces écrits apocryphes sont parfois en contradiction avec la parole inspirée de Dieu. Neil R. Lightfoot a écrit un livre, le titre en français, c'est « Comment la Bible nous est parvenue ?» Il a dit ceci. Il existe dans le Nouveau Testament un certain nombre de preuves convaincantes que, du temps de Jésus, le canon de l'Ancien Testament avait été finalisé, parce que les Juifs étaient fidèles à préserver donc la parole de Dieu. Nul ne peut nier que Jésus et ses apôtres à de nombreuses reprises aient cité des passages d'écrits précis faisant autorité. Il citait, entre guillemets, l'Écriture. C'est ce que nous voyons dans Jean chapitre 7 et le verset 38, Actes chapitre 8 et le verset 32, ainsi que Romains chapitre 4 et le verset 3. Les Écritures, entre guillemets, que nous voyons dans Matthieu chapitre 21, verset 42, Jean 5, verset 39, ainsi que Actes, chapitre 17, et le verset 11. Les saintes écritures, entre guillemets, que nous trouvons dans Romains, chapitre 1, verset 2, c'est ce que nous avons déjà vu. Les saintes lettres, entre guillemets, de Timothée, chapitre 3, verset 15, etc. Il disait souvent, avant de les citer, « Il est écrit ». En d'autres termes, c'est clairement écrit et c'est fermement établi, incontestablement vrai. Et l'Ancien Testament était préservé avec exactitude par les scribes. Les scribes juifs qui était chargé de la préservation des écrits, s'en acquittait avec un soin extrême, étant très méticuleux dans la manière dont il traitait et protégeait le texte. Ses scribes étaient formés dans l'art de l'écriture et étaient experts dans l'art de reproduire avec exactitude le texte biblique. Les scribes respectaient donc des règles très rigides. Ils s'assuraient qu'il n'y avait aucune erreur dans les nouveaux exemplaires, donc, des Saintes Écritures sur lesquelles ils travaillaient. Par exemple, quand ils ont copié un exemplaire, ils comptaient le nombre des mots. Et si une copie n'avait pas le bon nombre de mots par rapport à l'original, le dit manuscrit était détruit. Et cela garantissait que pas le moindre mot n'était ajouté, ni omis. Et c'est entre le 7e et le 11e siècle de notre ère que ces scribes ou ces copyistes professionnels étaient souvent appelés masorètes. Et nous avons le terme souvent utilisé de texte masorétique pour désigner le texte hébraïque officiel. Et Neil Lightfoot, c'est le monsieur que j'ai cité tout à l'heure, il a fourni quelques détails relatifs à la réputation, la haute réputation de ces personnes. Je cite, « Les Masorètes ne se souciaient pas seulement de la bonne prononciation, ils recherchaient aussi des moyens et des méthodes permettant d'éliminer les fautes calligraphiques que sont les additions et les omissions. C'est ce qu'ils achevaient grâce à des procédures complexes de comptage. Ils comptaient les versets, les mots et les lettres de chaque livre. Ils comptaient le nombre de fois que chaque lettre était utilisée dans chaque livre. Ils prenaient note des versets comprenant toutes les lettres de l'alphabet ou un certain nombre d'entre elles. Ils calculaient la lettre figurant au milieu d'un texte, le mot et le verset se trouvant en plein centre, le Pentateuque, le verset du milieu dans les psaumes, le verset central dans toute la Bible hébraïque, et ainsi de suite. En fait, ils comptaient pratiquement tout ce qui pouvait se compter. Avec ces sauvegardes et plusieurs autres, quand un scribe avait fini la copie d'un livre, il pouvait ainsi vérifier l'exactitude de son ouvrage avant qu'il ne soit utilisé. C'est toujours une citation de How We Got the Bible, comment la Bible nous est parvenue, à la page 132. Et nous comprenons pourquoi, avec une telle rigueur, une telle discipline, une telle minutie, un tel soin, pourquoi Dieu a confié aux Juifs ses oracles, les oracles de Dieu, comme c'est marqué dans Romains chapitre 3, que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et Dieu a voulu que les oracles vivants donnés lors de l'assemblée au désert, l'Église au désert, que ces oracles vivants soient fidèlement transmis, pour que la vérité de Dieu soit accessible aux hommes, et que la vérité de Dieu soit préservée. Les scribes étaient très fidèles avec la vérité de Dieu. Les Esséniens ne se trouvait pas dans cette catégorie. C'était une secte juive. Et voilà ce que l'Encyclopédia Universaliste dit à propos des Esséniens. La bibliothèque essénienne comporte trois catégories d'ouvrages. Les textes bibliques, les livres appelés apocryphes par les catholiques, et les œuvres plus particulièrement consacrées à la doctrine de la secte. Nous voyons ici donc les livres apocryphes qui ont été introduits, mais les livres, les écrits apocryphes n'ont jamais fait partie des livres de la Bible qui composent l'Ancien Testament. Dieu a choisi les scribes et les pharisiens pour occuper le siège de Moïse et pour agir en tant que gardien de sa parole. Il y a aussi, bien entendu, le Nouveau Testament, et quand nous regardons l'ensemble de la Bible, nous voyons que même au point de vue numérique, la Bible est complète. Il y a 7 divisions dans la Bible, dans toute la Bible. Nous venons de voir que l'Ancien Testament se divise en 3 divisions. La loi, les prophètes et les psaumes. Et quand nous poursuivons dans le Nouveau Testament, nous voyons 4 autres divisions. Il y a les évangiles, il y a les actes des apôtres, il y a les épîtres et il y a l'Apocalypse. Dans le Nouveau Testament, ça fait 4 divisions. 3 plus 4 égale 7. La Bible entière divisée en 7 parties, 7 divisions. Et nous savons que 7 représente un nombre parfait. Nous avons la parole complète de Dieu. Voilà pour ce qui est de la préservation de l'Ancien Testament. Regardons maintenant, si vous voulez bien, 1 Timothée chapitre 5 et le verset 18. 1 Timothée chapitre 5 et le verset 18. Car l'Écriture dit quelque chose qui a l'autorité de Dieu, qui vient de Dieu, donc l'Écriture, car l'Écriture dit, tu ne mangeras point le bœuf quand il foule le grain, et cette citation, nous le trouvons effectivement dans Deutéronome chapitre 25. Mais il y a une autre référence, phrase, dans le verset 18, et l'ouvrier mérite son salaire. Et l'ouvrier mérite son salaire. Cette phrase ne se trouve pas dans l'Ancien Testament. Nous venons de voir qu'il s'agit de l'Écriture, et cette phrase se trouve dans Luc chapitre 10, dans les Évangiles, dans Luc chapitre 10 et le verset 7. Luc chapitre 10 et le verset 7. Disant, demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Car l'ouvrier mérite son salaire. Une phrase prononcée par le Christ et qui se trouve dans les évangiles. Cette phrase est qualifiée d'écriture. Et nous avons déjà vu au début du sermon que toute écriture est inspirée de Dieu, insufflée de Dieu. Théopneustos. Nous commençons à voir l'inspiration de Dieu dans le Nouveau Testament. Regardons aussi 2 Pierre chapitre 3 et le verset 15 qui parle des épîtres de Paul, 2 Pierre chapitre 3 verset 15. Nous venons de voir une référence dans les évangiles. Et ici, dans Pierre, nous allons voir qu'il s'agit des écrits de Paul. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Donc, 2 Pierre chapitre 3, verset 15. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Verset 16, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, donc les épîtres de Paul, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Nous sommes familiers avec les écrits de Paul que il y a effectivement des points difficiles à comprendre. Dans les personnes ignorantes et mal affermies, tord le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Pierre parle des épîtres de Paul. Il mentionne dans toutes les lettres de Paul, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficile à comprendre, et ensuite, plus loin, comme celui des autres écritures. Donc, les écrits de Paul, les épîtres de Paul, sont qualifiés d'écritures. De nouveau, inspirés de Dieu, insoufflés de Dieu. De Pierre, c'est la dernière lettre que Pierre a écrite, peu de temps avant sa mort et probablement peu de temps après la mort de Paul. Et Pierre met les choses en perspective dans cet épître. Regardons 2 Pierre, chapitre 1, et le verset 15. Il dit, « Mais j'aurai soin qu'après mon départ, puisque sa mort approchait, mais j'aurais soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. » Pierre a écrit pour qu'après son départ, après sa mort, l'Église puisse toujours se rappeler, se souvenir de ces choses. Et ces écrits, ces épîtres, sont devenus une partie des Écritures. Si nous regardons à partir du verset 12 jusqu'au verset 15, nous pouvons constater que Pierre utilise le première personne au singulier, « je », à plusieurs reprises. Voilà pourquoi verset 12, « je prendrai soin », verset 13, « et je regarde ». Donc, il utilise le première personne au singulier, et puis, d'un seul coup, à partir du verset 16, il utilise la première personne au pluriel, nous. Verset 16, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui était le nous dont il fait référence dans le verset 16? Mais si nous continuons à lire, nous voyons la réponse. À la fin du verset 16, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père l'honneur, honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est une référence à la transfiguration qui se trouve dans Matthieu chapitre 17. Verset 18, je reviens à 2 Pierre chapitre 1 et le verset 18. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Si nous étudions la transfiguration, nous constatons qu'il n'y avait que Pierre, Jacques et Jean qui ont accompagné le Christ sur la montagne et qui étaient témoins de cette transfiguration. Et Jacques était déjà décédé, il avait été tué, martyrisé. Il ne restait que Jean et Pierre à ce moment-là, qui étaient témoins de cette transfiguration. Verset 19. Et nous tenons, donc, Jean et Pierre à ce moment-là, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. C'était donc Jean et Pierre qui tenaient la parole prophétique et qui allaient pouvoir laisser cette parole prophétique à l'Église, au monde de l'Église, à l'avenir, qui avait l'autorité pour laisser la parole prophétique. Il est intéressant de comparer Genèse à l'Apocalypse. Et quand nous comparons les thèmes traités dans le premier livre de la Bible avec le dernier livre de la Bible, nous voyons qu'il existe une unité étonnante entre eux, et que les deux livres se complètent. Bien sûr, les deux livres sont rédigés et rassemblés sous l'inspiration divine, et le dernier de ces deux livres, l'Apocalypse, revient sur les thèmes traités dans le premier et les complète. La Genèse décrit la préparation de la terre pour la vie humaine, et l'Apocalypse montre aussi la préparation de la terre pour les êtres humains avec l'intervention du Christ et avec l'élimination de la puissance de Satan. Deuxièmement, Genèse parle tout au début de Genèse de la relation étroite entre Dieu et Adam et Ève, les êtres humains, et Apocalypse parle aussi de cette relation étroite entre Dieu et les êtres humains, avec une dimension spirituelle supplémentaire. Et troisièmement, Genèse parle, tout au début de Genèse, parle de l'arbre de vie dans le jardin d'Éden. L'arbre de vie qui était symbolique de la vie éternelle. Comme nous voyons dans la deuxième partie du Genèse chapitre 3 et le verset 22, je ne m'y rapporte pas, Genèse 3, 22, deuxième partie, empêchons-le maintenant d'avancer, c'est Dieu qui parle, empêchons-le maintenant d'avancer ses mains, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Apocalypse parle aussi de l'arbre de vie. C'est même spécifié pour l'église d'Éphèse, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Et cette fois-ci, on peut manger de l'arbre de vie. Le livre de l'Apocalypse est la promesse divine d'un monde entièrement différent et de la restauration du rapport étroit entre Dieu et les êtres humains. En somme, ce livre est l'aboutissement des agissements divins avec les êtres humains. 1 Pierre chapitre 2 et le verset 7. 1 Pierre chapitre 2 et le verset 7. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue le principal de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et vous avez peut-être dans votre Bible, à côté de ce verset, une référence biblique où il est question d'une citation dans Ésaïe chapitre 8 et le verset 14. Ésaïe chapitre 8, le verset 14, je continue à lire. Verset 8, 1 Pierre chapitre 2, verset 8. Ici heurte pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Et quand nous nous rapportons à Ésaïe chapitre 8, verset 14, comme c'était mentionné, et ils sont un sanctuaire, mais aussi un pierre d'achoppement, un rocher de scandale, pour les deux maisons d'Israël, un filet, un piège, pour les habitants de Jérusalem, plusieurs, verset 15, plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront, ils seront enlacés et pris. Et là, dans le verset 15, il y a une référence biblique à 1 Pierre, entre autres, à 1 Pierre chapitre 2, et le verset 8, c'est ce que nous venons de lire. Pierre donc cite directement Ésaïe chapitre 8 et applique les versets que nous venons de voir, applique ses déclarations à Christ. Ça nous donne donc le contexte. Et ce qui est intéressant, si nous regardons le verset 16, toujours donc Ésaïe chapitre 8 et le verset 16, nous venons de voir le contexte, le verset 16 dit: enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. Et étant donné que nous venons de voir le contexte, c'est une possible allusion au Nouveau Testament. C'est une possibilité parce que nous savons que le Christ a inspiré la rédaction du Nouveau Testament au moyen des disciples qu'il a appelé et qu'il a formé. Jean était le dernier apôtre à écrire. Il a écrit l'Apocalypse à la fin du premier siècle, le dernier livre de la Bible, et il est intéressant dans le contexte de ce sermon de voir ce qu'il a écrit dans Apocalypse chapitre 22, le verset 18. Tout est la fin d'Apocalypse, tout est la fin de la Bible. Apocalypse chapitre 22 et le verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, ce dernier livre de la Bible. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Il fallait que la parole de Dieu soit complète. Il fallait pas qu'il y ait des omissions. Il fallait pas qu'on ajoute quoi que ce soit. Et la Bible, donc, termine avec cette mise en garde. Il fallait que le livre d'Apocalypse et même toute la Bible soit tel que Dieu l'a inspiré, tel que Dieu l'a donné. De Genèse chapitre 1, verset 1 à Apocalypse chapitre 22, verset 20, Dieu nous a donné toute sa parole. Oui, la Bible est complète.